Le journal Thomas Larabi. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'ombre du 49-3 plane sur la réforme des retraites. L'examen du projet de loi se poursuit ce week-end à l'Assemblée, mais les 41 000 amendements déposés par l'opposition font grincer des dents au sein de la majorité, au point de commencer à évoquer l'article 49-3 de la Constitution. Explication au début de ce journal avec Pierre Neveu.
Emmanuel Macron inaugure le 57e salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris.
Oui, le président de la République n'arrive pas les bras chargés de cadeaux. Il revient de Bruxelles où a échoué la négociation autour du budget de l'Union européenne et donc de la PAC, la politique agricole commune. Porte de Versailles, les agriculteurs l'attendent de pied ferme.
Psychose autour du coronavirus en Italie.
Des écoles, des bars et des églises fermées dans le nord du pays où 15 nouveaux cas sont confirmés. Par ailleurs, la première victime européenne de la maladie est décédée hier dans le pays le plus touché sur notre continent. Reportage sur place de Bruce de Galzin et puis nous ferons un point sur les primaires démocrates aux États-Unis, sur la situation du chercheur Patrick George emprisonné depuis 15 jours en Égypte, avant d'aller à Rio prendre la température à la veille d'un carnaval aux allures très politiques cette année. Votre invité ce matin, Caroline.
Et ben nous reviendrons sur l'attentat qui a eu lieu mercredi soir à Hanau en Allemagne et sur les extrêmes droites en Europe en compagnie de la politiste Nona Maillère qui est spécialiste de sociologie électorale, des droites radicales, du racisme et de l'antisémitisme.
La bataille parlementaire fait rage autour de la réforme des retraites. L'examen du projet de loi se poursuit ce week-end à l'Assemblée avec 3 séances de débat programmées aujourd'hui et demain. Mais sur les 41 000 amendements déposés par l'opposition, seuls 4 000 ont été examinés depuis lundi. Autant dire qu'il devient de plus en plus difficile pour le gouvernement de faire adopter le texte comme prévu avant les élections municipales. Alors le spectre de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution fait son retour. Les explications de Pierre Neveu.
Amendement, sous-amendement, rappel au règlement. Depuis le début de la semaine, les députés insoumis et communistes utilisent toutes les ficelles du règlement intérieur de l'Assemblée pour ralentir l'examen du projet de loi. Une stratégie d'obstruction parlementaire pleinement assumée par le député France Insoumise François Ruffin pour dénoncer le fond et la forme du projet de loi.
Je redemande à la majorité et à Monsieur le ministre, pourquoi nous devons faire ce sprint législatif ? Pourquoi on nous a fixé comme ligne d'arrivée les élections municipales et pourquoi il ne faut pas les dépasser ? On aimerait une réponse sur ce point.
Dans ce débat devenu impossible et parfois virulent, les députés de la majorité comme de l'opposition s'interrogent sur le bien fondé de leur mission qui, faute de temps, risque d'être écourtée par l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement. Attention, prévient le député et porte-parole du PS, Boris Vallaud.
Moi, je ne recommande à personne de faire le jeu de l'antiparlementarisme. Laissons ça aux boulangistes, aux ligards, aux poujadistes et à l'extrême droite.
Longtemps écarté par le gouvernement et les responsables de la majorité, le recours au 49-3 n'est désormais plus tabou. Et vu le contexte, cela devient une évidence pour le président du groupe LREM à l'Assemblée, Gilles Legendre.
Il est évident qu'en aucun cas, nous ne laisserons bloquer l'institution Assemblée nationale.
Face à ce qui semble devenir inéluctable, des députés de la majorité ont signé une tribune pour demander au gouvernement de respecter le débat parlementaire et préviennent qu'une utilisation du 49-3 serait délétère et incompréhensible pour les Français.
Les précisions de Pierre Neveu.
À Paris, aux portes de Versailles, le salon de l'agriculture ouvre ses portes.
Oui, Emmanuel Macron inaugure ce matin le 57e du genre, porte de Versailles. Et le président ne va pas à la rencontre des agriculteurs avec une bonne nouvelle de retour de Bruxelles. Il n'a pas pu empêcher l'échec des négociations entre les 27 pays de l'Union européenne sur le budget 2021-2027 et notamment sur le maintien de l'enveloppe de la PAC, la politique agricole commune. La présidente du principal syndicat agricole, la FNSEA, Christiane Lambert, doit rencontrer Emmanuel Macron au salon. Elle compte bien lui faire la liste des doléances des agriculteurs, une liste de plus en plus longue à leur choix.
Il y a les pêcheurs inquiets des conséquences du Brexit sur leur volume de pêche, les éleveurs qui craignent les effets du CETA sur leur compétitivité et les viticulteurs qui craignent les effets des sanctions américaines sur leurs exportations. Il y a également les retraites des agriculteurs dont la revalorisation à 85% du SMIC a été rejetée à l'Assemblée et le revenu agricole qui n'a que très peu augmenté malgré une loi issue des États généraux de l'alimentation, la loi Egalim, censée lui profiter. Il y a la politique agricole commune 2020 qui se négocie en ce moment et dont le budget pourrait fortement souffrir. Enfin, il y a les actions parfois radicales des véganes, les oppositions de plus en plus fréquentes avec les riverains et les associations au sujet des pollutions aux pesticides ou de l'utilisation de l'eau qui tendent encore des relations déjà distendues entre le monde agricole et le reste de la société. Tout ce que les agriculteurs appellent l'agribashing, qui nourrit une crise parfois plus identitaire qu'économique. C'est pourtant bien la question du revenu qui est au centre des dernières actions du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui ne nie pas que les effets de la loi Egalim se font attendre, mais qui estime que le texte prendra toute son ampleur seulement cette année. Le ministre voit quelques motifs d'espérance, et notamment le retour, dans les lycées agricoles, de jeunes femmes et hommes qui souhaitent travailler dans le secteur après des années de baisse des effectifs.
Les explications d'Anne Lorchouin. La centrale nucléaire de Fessenheim a un pied dans la tombe. Le premier des deux réacteurs de la centrale la plus vieille de France a été stoppé cette nuit à 2h. Alors que des salariés promettaient de désobéir, elle a été débranchée du réseau électrique national sans encombre. Pour le gouvernement, le but est de réduire progressivement la part du nucléaire à 50% dans un mix énergétique français à l'horizon 2035. Mais pour Greenpeace, le gouvernement devrait également anticiper la fermeture d'autres centrales de plus de 40 ans, comme Tricastin par exemple, où des militants ont tenté de s'introduire hier. Or pour le moment, ce n'est pas prévu, c'est ce que regrette Alix Mazzouni, chargée du nucléaire pour Greenpeace.
Fessenheim va être une exception puisque ce sera la seule centrale à fermer avant 50 ans de fonctionnement, si on en croit le programme proposé par EDF et le gouvernement. Pour les autres, on propose de jouer un jeu dangereux en essayant de les exploiter au maximum. C'est tirer sur la corde et c'est irréaliste. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux dans le nucléaire. Pour l'instant, ce que propose la feuille de route énergétique, c'est de fermer des réacteurs à partir de 2027 et d'accélérer le rythme de fermeture afin de réduire la part du nucléaire à horizon 2035. Mais c'est beaucoup trop tard et surtout, en attendant, on ne fait rien, on ne programme rien, on ne prévoit pas la reconversion des territoires, le reclassement des travailleurs, alors qu'il est très important de prendre conscience que dans les années qui viennent, il va falloir fermer beaucoup de réacteurs nucléaires, qu'on le veuille ou non, ils vieillissent. Il faut absolument anticiper que ces sites ne sont pas éternels. On fait mine de reporter à plus tard des décisions qui doivent être prises maintenant.
Alix Mazzouni, chargée du nucléaire pour Greenpeace, et le second réacteur de la centrale de Fessenheim, sera arrêté le 30 juin prochain.
France Culture, 8h08, suite du journal. La psychose grandit en Italie autour du coronavirus où un homme de 78 ans est décédé.
Oui, c'est la première victime européenne du coronavirus, vous le disiez, un Italien de 77 ans. Et surtout, le nord du pays se barricade hier en une seule journée. 15 nouveaux cas ont été recensés en Lombardie. Les contaminations se concentrent autour de la petite ville de Cordogno, au sud-est de Milan. Et dans cette zone, une dizaine de villes a même fermé la plupart des lieux publics. Reportage de Bruce de Galzin.
Les stades, les églises, mais aussi les restaurants, les magasins, ce sera ville morte tout autour de Cordogno et ses 15 000 habitants où la plupart des cas sont recensés. Les maires d'une dizaine de petites villes au sud-est de Milan demandent même à leur population de rester chez elles. La quarantaine est en revanche obligatoire pour les personnes qui ont été en contact avec les patients contaminés. Et Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, veut rassurer.
Nous étions préparés. La population ne doit pas être inquiète. Comme nous l'avons toujours dit, nous adopterons les mesures les plus sévères et les plus rigoureuses pour un maximum de précautions. Nous sommes en train de circonscrire les zones touchées. Nous prenons des mesures d'isolement pour les personnes qui ont eu un contact même minime.
Plus de 250 personnes sont placées à l'isolement pour la seule ville de Cordogno où le premier cas a été détecté. Un homme de 38 ans qui n'a pas voyagé en Chine. Sa femme, plusieurs clients d'un bar de la ville où elle est allée, ainsi que des soignants de l'hôpital sont positifs au premier test du coronavirus. Ce sont les premiers cas de transmission locale du virus en Italie.
Un reportage de Bruce de Galzin. Et alors que les contaminations ralentissent en Chine, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme de l'absence de liens épidémiologiques clairs dans des cas apparus en dehors de la Chine, des cas dans lesquels il n'y a pas d'antécédent de voyage ou de contact avec un cas confirmé. Après l'Iowa et le New Hampshire aux États-Unis, le Nevada est le troisième État à voter ce week-end pour la primaire démocrate, primaire qui doit désigner le candidat opposé à Donald Trump en novembre prochain pour la présidentielle. Et s'il y a bien un sujet qui domine cette campagne, c'est celui de la santé. En effet, les États-Unis, c'est le seul pays industrialisé à ne pas avoir un système national universel. Plusieurs candidats démocrates les plus à gauche, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, proposent une telle couverture. Et le débat est lancé outre-Atlantique. Exemple à Bethléem en Pennsylvanie avec Isabelle Raymond.
Bethléem, Pennsylvanie, jusqu'à présent connue du reste des États-Unis pour avoir abrité l'un des producteurs d'acier les plus importants du pays. Cette ville de 75 000 habitants refait parler d'elle car son conseil municipal a adopté le mois dernier une résolution en faveur d'une assurance santé universelle, un projet initié par William J. Reynolds.
Je regarde simplement ce que nous dépensons pour la santé de nos employés municipaux. En 2005, on avait 670 salariés, aujourd'hui on en a 600. Et pourtant, ce que nous dépensons pour leur santé est passé d'environ 5 millions de dollars par an à près de 12 millions. Donc nos frais de santé ont doublé, alors que le nombre de nos employés, lui, a baissé. Cet argent, du coup, il ne va pas à la sécurité ou à la rénovation des rues.
La résolution du conseil municipal n'a qu'une valeur symbolique. Et heureusement pour ce couple de retraités rencontrés devant le centre de soins de Bethléem, Johanna et Louis Lombardi, 83 et 93 ans, tous les deux républicains, tous les deux couverts par le programme public national qui assure les plus de 65 ans, Medicare. Ils ne couvrent pas tous leurs soins de santé. Ils y ajoutent une assurance privée qui leur coûte 500 dollars par mois. J'ai fait une attaque récemment, raconte-t-elle, et j'ai été hospitalisée 6 semaines. J'ai pas déboursé un centime. Mes médicaments aussi sont pris en charge. Parfois, je dois payer 8 dollars, 14 dollars. C'est un excellent système, renchérit son mari. Je ne voudrais pas d'un système socialiste comme en France ou en Angleterre. Ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, 9% de la population n'est couverte par aucune assurance santé.
Les précisions d'Isabelle Raymond. En Égypte, le chercheur Patrick Georges va-t-il sortir de prison? Un procureur doit en décider aujourd'hui. Depuis son arrestation il y a 2 semaines, son sort continue d'alerter en Europe. Des rassemblements se sont tenus hier dans plusieurs villes d'Italie où il étudiait, mais aussi à Berlin ou encore Bruxelles. Ce jeune militant égyptien des droits de l'homme est accusé, entre autres, de faire l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Son cas illustre bien la répression de plus en plus féroce à l'encontre des ONG de défense des droits humains en Égypte, au Caire. Précision de Martin.
Au cours d'un interrogatoire mené par la sécurité d'État, Patrick Georges a été torturé. Les agents de ce service tout-puissant l'ont dévêtu et battu. Ils lui ont aussi infligé des décharges électriques. Entre son arrestation à l'aéroport du Caire et son transfert devant un procureur, cet interrogatoire a duré en tout 30 heures. 30 heures qui ne figurent nulle part. Son arrestation a été post-datée, explique son avocat Oda Nasrallah.
Ils ont falsifié les faits. Ils ont dit qu'il avait été arrêté un jour plus tard et durant ce jour d'intervalle, c'est là qu'il a été détenu à la sécurité d'État et torturé.
Cette pratique est quotidienne. Comme Patrick Georges, au moins 710 personnes ont été soumises à une disparition forcée en 2019 seulement. La torture est courante dans les prisons égyptiennes, mais au sein de l'ONG où travaillait Patrick Georges, c'est la première fois qu'un chercheur en est victime. Un signal alarmant pour sa collègue Lobna Darwish.
Une ligne a été franchie quand Patrick a été torturé. Et avec les mauvais traitements qu'il a subis, si c'est toléré, ensuite cela deviendra la norme pour d'autres. Je défends Patrick car c'est un ami, un collègue et quelqu'un que j'aime. Mais à travers son cas, je défends aussi les autres militants des droits humains en Égypte.
Depuis des manifestations contre le régime en septembre, la répression à l'encontre des militants des droits de l'homme s'est encore durcie. Au sein de cette ONG seulement, 6 chercheurs ont été temporairement arrêtés.
Si nous allions à Rio, les écoles de samba vont défiler à partir de ce soir au Sambo Domo, la fameuse avenue d'un kilomètre de long. Au-delà de la musique et de la danse, sans grande surprise, cette année, le carnaval risque d'être très politisé. C'est le président Bolsonaro et la religion qui sont le plus moqués, deux entités qui font parler d'eux toute l'année. Sur place, reportage d'Anne Vigna.
Cette année, les écoles de samba n'ont pas fait dans la demi-mesure. La première, Mangueira, vainqueur du carnaval précédent, s'attaque à la religion et présente un Jésus noir avec du sang indien et un corps de femme. Une offense pour les conservateurs qui ont tenté en vain de l'empêcher. Mais comme le dit Elisabeth, qui va défiler ce week-end, il s'agit simplement d'une question de respect.
Un pays où la population LGBT...
Dans un pays où la population LGBT est très attaquée, où beaucoup de gays meurent au Brésil, Mangueira présente toute une aile du défilé avec des hommes vêtus en Marie-Madeleine et portant le drapeau gay pour montrer qu'on doit respecter cette partie de la population.
Le samba de Mangueira invite aussi à ne pas croire aux messies qui ont des armes à la main, une référence directe à Jair Bolsonaro. Le président est aussi présent dans le défilé de l'école San Clemente, sur l'avenue des fake news qui ont contribué à son élection. et le scénariste du défilé assume complètement.
Dans notre chanson, nous avons choisi de montrer les fake news et nous utilisons une allégorie qui est une représentation d'un téléphone mobile qui va partager des mensonges pendant le défilé.
L'impact du carnaval est toujours important car le défilé des écoles est vu dans tout le Brésil et les sambas sont repris et chantés toute l'année. On ignore encore la réaction du président, mais on ne doute pas qu'il n'appréciera guère la satire qui le vise particulièrement cette année.
Un reportage d'Anne Vigna. Un mot de la météo, des nuages et de la pluie sur les Hauts-de-France ce matin. Les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne d'ailleurs sous les nuages et la pluie. Grand soleil partout ailleurs. Côté température, elles iront de 10 à Lille jusqu'à 16 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par François-Charles Demergue.